Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
En introduction de notre lecture du jour, Parle-moi d'amour de Michel Coast aux éditions Ouvrières, je voudrais reprendre simplement quelques lectures du dernier livre, du dernier chapitre que nous avons lu. Ceci en guise d'introduction pour mieux comprendre la suite. Pourquoi donc est-ce si difficile d'aimer, m'écriai-je après un long silence. Parce que aimer, c'est unir, dit-il, et que le monde autour de nous est éclaté en multiples morceaux. Gigantesque puzzle qu'il nous faut reconstituer pour faire un univers. Milliards de membres épars qu'il nous faut réunir pour faire de l'humanité un grand corps total. C'est une merveilleuse et difficile aventure où deux énergies s'affrontent, une force de division, l'égoïsme et l'orgueil, une force d'union, l'amour. Au bout de l'égoïsme, c'est la mort. Au bout de l'amour, la vie. Or, cette lutte est en toi, comme elle est en moi et en tout homme, et la valeur de nos vies se mesure à la force d'union que chacun de nous nous introduisons dans le monde. Ensuite, un autre morceau de lecture. Il faut que l'homme tende la main à l'homme pour que vive la fraternité et fleurisse l'amitié. Il faut que le combat de justice par l'homme s'ouvre à l'amour pour faire éclore la liberté. Il faut que l'homme épouse la femme pour que naisse la joie et l'enfant de la joie. Il fallait enfin que Dieu soit trois et que ces trois soient un pour que vive l'amour en la Trinité sainte. Il fallait que Dieu soit homme pour que l'homme devienne Dieu en devenant fils. Et il faut maintenant que les hommes libres, fécondés par l'Esprit, se rassemblent en Église pour ne faire qu'un seul corps où circule la vie. Alors, tous réunis, univers, hommes et dieux, épousés dans l'amour, nous ferons ciel et pour l'éternité. Et la lecture du jour, ce sera le chapitre 19. Ce soir-là, j'eus beaucoup de mal à m'endormir. Les souvenirs remués remontaient en moi comme si une nouvelle vie les avait habités. Un instant, je regrettais de les avoir exhumés. Certains étaient si profondément enfouis que je les croyais morts. Pourquoi avoir libéré ces démons enfermés? Mêlés à mes regrets, des rancunes naissaient. J'en voulais à mes parents pour ce qu'ils m'avaient dit de l'amour, et plus encore pour ce qu'ils ne m'avaient pas dit. Je leur en voulais du spectacle qu'ils m'avaient offert, de leur amour difficile et souvent orageux. J'en voulais à certains de mes éducateurs, à certains de mes camarades, et regrettais les multiples détours de mes recherches enfiévrées. J'en voulais à moi-même, si fière il y a peu de temps encore, de mes nombreuses conquêtes. Elles m'apparaissaient aujourd'hui comme autant de défaites. J'enviais les vrais croyants qui pouvaient se réconcilier avec eux-mêmes, avec leurs frères et avec Dieu. Mais décidément, je n'en étais point encore là. Aller dire mes misères à un prêtre me semblait impossible. Je les avais dites aux sages. Pourquoi ne pouvait-il pas me donner le pardon et la paix de son Dieu? Il fallait pourtant me désencombrer, me libérer. J'avais compris que ce qui en moi était enfermé, vivait et vorace parasite, rongeait ma vie sans que je m'en aperçoive. N'était-ce pas pour cela que si souvent anémié, je manquais de force pour me battre? Comme le sage me le conseillait, je priais. Je dis à Dieu, « Je te donne mon passé, Seigneur, puisque, paraît-il, tu le réclames. Je te le donnerai tant que mes souvenirs pourriront en mes caves. Est-ce vrai que tu récupères tous les déchets, même ceux qu'on appelle péchés? Pour toi, dit-on, rien n'est perdu pourvu que l'on te donne, et tu restitues la vie à ceux qui étaient morts. Alors ouvre mon cœur et mes deux mains fermées, et même si elles sont sales, prends tout, je te donne même ce que je ne veux pas donner. » Je répétais cette prière habillée de ces mots-là et de bien d'autres encore. Mais ma prière, hélas, une nouvelle fois, se heurtait douloureuse au silence de Dieu. Quand j'écoutais le sage, j'admirais son discours et ne pouvais m'empêcher de croire en ses paroles. Quand j'écoutais mon cœur et plus encore mon corps, j'approuvais en sourdine leurs revendications. Ils ne parlaient pas le même langage. Lequel avait raison ? Les deux, me dit le sage quand je lui posais la question. Je ne comprenais pas, et il le vit. Je t'expliquerai, dit-il. Il faut que tu comprennes. Il poursuivit. Il n'y a pas plusieurs vies, mais une seule, et une seule force au cœur de cette vie, une force d'union, l'Esprit de Dieu que lui, puis l'Esprit de Dieu qui, depuis l'origine, planait sur les eaux. Genèse 1, le verset 2. Car voici quelques milliards d'années, cette prodigieuse énergie qui mystérieusement, mais intelligemment, poussait quelques éléments et parts de matière organique à se rechercher, s'organiser, s'unir, pour qu'enfin vive la première cellule. Et cette même énergie qui aujourd'hui bouge, chante et crie dans la chair de l'univers, afin que celui-ci grandisse chaque jour. C'est elle qui fait la racine amante de la terre. C'est elle qui fait l'épi de blé amoureux du soleil et le soleil courtisan de l'épi. C'est elle qui, à l'oiseau, fait franchir l'océan pour y chercher sa terre et y creuser son nid. C'est elle qui, des animaux, pousse irrésistible le mâle vers la femelle. Il n'y a pas plusieurs vies, mais une seule. Car voici quelques dizaines de milliers d'années, cette même prodigieuse énergie mit l'animal debout et releva sa tête. C'est elle qui lui ouvrit les bras pour qu'il saisisse et façonne la terre. C'est elle qui incendia son corps à l'appel de notre corps. C'est elle qui anima son cerveau pour qu'il puisse se connaître et connaître ses frères. C'est elle qui un jour enfin fit battre son cœur devant la lumière naissante à la frontière d'un regard. Et c'est aujourd'hui encore cette même énergie qui, venant du fond des temps, traversant l'univers et la multitude des hommes, surgit en toi, brutale comme une eau souterraine, qui jaillit impérieuse, cherchant à tâtons et son lit et sa mère. C'est elle qui fait naître ces multiples désirs qui si souvent te tourmentent et t'inquiètent tant ils sont puissants et si mal satisfaits. Désirs d'eau, d'air, de soleil, de désirs de terre nourricière, désirs de vivre, de grandir, désirs de savoir, de connaître, désirs des autres à découvrir et surtout ces merveilleux et troublants désirs de la femme, de ton cœur vers son cœur, de ton corps vers son corps, l'un et l'autre volant vers l'unité promise. Il n'y a pas plusieurs vies, mais une seule, et sa source est l'amour de ton Dieu qui sans cesse engendre l'univers et l'humanité. Je suis la vie, dit Dieu, et moi, je crois ce que Dieu dit. Brusquement, je m'expérimentai debout au carrefour de cette vie. Elle n'était pas de moi. À moi, elle m'arrivait de loin. Elle m'animait comme elle animait tous les vivants depuis toujours et aujourd'hui. J'étais unie à eux, embarquée avec eux dans la même aventure. Mais cette prodigieuse énergie me faisait toujours peur. Elle soufflait fort en mes voiles mal orientées et moi, mauvais navigateur, depuis longtemps déjà, je me précipitais sur tous les récifs du voyage. Silencieux, je réfléchissais. Mais le sage, tout haut, continuait inlassablement sa longue méditation. Il s'enflammait au fur et à mesure qu'il parlait, et c'est très fort qu'il me dit « C'est beau la vie, tu le diras à tes fils. » Tu leur diras que c'est beau. Tu leur diras avant qu'en eux s'éveille le désir, lorsque la vie coulera doucement en leurs veines paisibles, que cette vie venant de loin, en eux naquit un jour du désir de leur père et celui de leur mère, quand leur cœur eut dit oui à leur corps s'enlaçant. Tu leur diras que c'est beau, qu'en bourgeons éclatant sous la sève qui monte, ils chercheront inquiets quels sont ces déchirements, quand leur cœur soudain trop froid, trop solitaire, cherchera un autre cœur qui ne soit cœur ni de père ni de mère. Tu leur diras que c'est beau, qu'en corps en peine, qui saignent d'une vie qui s'écoule, ils demanderont pour qui, pourquoi cette vie dépensée sans qu'elle donne la vie. Et quand, explorateurs fiévreux, ayant visité l'île de leur corps et tenté d'en cueillir tous les fruits de plaisir, ils imagineront d'autres corps et rêveront d'abordages et de courses au trésor. Tu leur diras que c'est beau. Quand leurs pensées, leurs rêves et leurs nuits seront brusquement illuminés par la lumière d'un visage et secrètement hantés par le galbe d'un corps, quand leurs doigts innocents tout à coup trembleront et chercheront à vérifier s'il s'agit d'un mirage, tu leur diras que c'est beau. Quand les désirs en eux s'éveilleront un à un comme un feu qui s'allume après une longue nuit et qu'ils découvriront, inquiets mais tentés par la flamme, que du feu entretenu peut naître un incendie, tu leur diras que c'est beau. Le sage se pencha vers moi et me saisit le bras. Il le serrait très fort en me dévisageant. « Tu leur diras, n'est-ce pas ? Tu leur diras, répéta-t-il, tant et tant de jeunes n'ont personne pour le leur dire. Ils cherchent à tâtons, ils se blessent l'autre et tuent l'amour en croyant le trouver. Tu leur diras que c'est beau, parce que c'est à eux le fleuve de vie, accourant du fond des temps qui cherche son passage dans leur corps aujourd'hui, devenu trop petit, parce que c'est le souffle d'amour venant de l'infini qui fait battre leur cœur et cherche notre cœur pour battre au même rythme, parce que c'est un jeune aux merveilles qui devient source et non seulement fleuve, tandis qu'un homme naît quand s'efface l'enfant, et parce que, surtout, à travers ces mystérieuses fins de leur corps, de leur cœur, qui tant les inquiète en les faisant souffrir, c'est le murmure de Dieu qui leur chuchote tout bas. « Je t'ai fait à mon image, enfant chéri de mon cœur. Alors n'étouffe pas les désirs, et toi, même s'ils te font peur, tu étoufferais ma voix au creux de ces appels ? Écoute sans rougir, pourquoi rougirais-tu ? Écoute sans trembler, pourquoi aurais-tu peur ? C'est moi qui t'appelle, même dans la tempête. Embarqué avec toi, je suis là pour t'aider. » Le sage avait lâché mon bras. Il s'était redressé. Parlant de Dieu, il avait clos les yeux. Je savais que c'était pour mieux le retrouver. Je savais aussi que même les yeux fermés, le sage voyait. Il voyait ce que je ne voyais pas. N'était-ce pas cela ? La contemplation, quelqu'un qui découvre l'au-delà des choses, des personnes, des événements, comme un homme qui verrait en la terre les racines de l'arbre et la sève dans les racines et les sucs dans la terre et les fleurs de demain et au cœur de cette vie le mystérieux amour qui appelle et veut la moisson triomphante. Oui, le sage voyait. Il voyait l'au-delà, tandis que je n'étais qu'à la surface des choses. Et moi, homme inachevé, je n'étais qu'un enfant aux yeux mi-clos qui péniblement découvre le monde qui l'attend. Le sage murmura à nouveau, mais cette fois se parlant à lui-même. « Que c'est beau !» Puis il continua de la même voix, basse et lente. « Oh oui !» Combien est beau un jeune qui lentement s'ouvre à l'amour et qui tâtonne et qui cherche son chemin dans la nuit. Quelle est belle la démarche des garçons et des filles qui s'observent, s'approchent et se touchent, tentant de se connaître et de se reconnaître, invités de toujours à l'union pour l'enfant désiré. Pourquoi ne voir d'abord que leurs faux pas, leurs erreurs et leurs chutes? Pourquoi sourire rire ou condamner, alors qu'il faudrait admirer, célébrer, remercier, pour ensuite pouvoir sainement orienter. Mais qui suis-je, ô mon Dieu, pour me vouloir ainsi le chantre de l'amour? Ne devrais-je pas me taire? Puis le sage se tourna vers moi. Quand tu comprendras enfin, quand l'amour brille l'infinie beauté de Dieu, car il est en l'homme son vivant reflet, alors tu pourras dire à tes fils qu'elle est magnifique, leur recherche de jeûne, et tu pourras, mais alors seulement, non pas leur dire « c'est interdit ici » et puis « interdit là », mais que l'aventure est tellement belle qu'il ne faut rien gâcher, qu'il ne faut rien salir, et qu'aimer est très difficile, car c'est une longue bataille d'hommes qu'il leur faudra gagner. Chapitre 20. Ainsi, c'était beau, et je ne le savais pas. Ce n'était pas honteux d'avoir faim et de chercher dans la nuit sa nourriture, mais je le pressentais maintenant. C'était abîmer l'homme que de laisser ses désirs se nourrir n'importe quand, n'importe comment. Certes, il m'était arrivé quelquefois de comprendre, non pas seulement parce que le sage m'y avait aidé, mais parce que je l'avais moi-même expérimenté, qu'au-delà de mes fins de corps et même celles de cœur, je cherchais inconsciemment une nourriture plus substantielle que celle que m'offraient les plaisirs passagers. Ainsi, certains jours, devant une fille au regard limpide, malgré la tyrannie de mes désirs et les moqueries de mes amis, mes doigts et mes lèvres devenaient subitement timides et sages. C'est que mon cœur me murmurait tout bas, « Pas avec elle !» Pourquoi pas ? Comment pouvais-je deviner, puisque personne ne m'avait expliqué que dangereusement penché au bord de certains yeux clairs, comme fenêtres ouvertes sur des horizons infinis, l'étrange lumière que j'entrevoyais alors n'était autre que le sourire de Dieu, m'invitant à briser les chaînes de mes prisons, pour partir à l'aventure, loin, très loin, sur d'autres chemins que mes chemins sans issue. Aujourd'hui, je savais, ou je croyais savoir, et décidais de me mettre en route. Sur les multiples sentiers de mes riches découvertes, je ne m'arrêterai plus. Le sage me connaissait. Il savait qu'il y avait en moi quelque chose du cheval fougueux, que trop longtemps on avait tenu attaché, captif en l'écurie. Enfin libéré, mon ami avait peur que je ne m'emballe. « Ne rêve pas, mon petit, dit-il. Certes, je te le répète et le répéterai, rien n'est plus beau qu'un jeune qui, un à un, brise les fils de son cocon et s'exerce à voler sans savoir où il vole. Il ignore qu'il cherche celle qui lui offrira enfin un visage à l'amour. Mais la route est longue qui le conduit à la rencontre. Elle est plus longue et plus dure encore, mais plus belle. » Celle qui mène les amants réunis s'ils sont fidèles jusqu'au sein de l'amour infini que les hommes appellent ciel. On n'a jamais fini d'aimer. Il faut apprendre chaque jour. Enseignez-moi le chemin, dis-je, et je m'y engagerai avant d'y engager mes fils. Il faut d'abord de toi faire un homme, mon petit. « Mais je le suis, répliquai-je vivement et quelque peu blessé. Pas encore, car un homme naît en toi, mais n'est pas achevé. Que dois-je faire pour l'achever? La vie que tu reçois des autres, du monde, de Dieu, doit devenir ta vie. L'animal, lui aussi, reçoit la vie, mais contrairement à l'homme, il n'a aucune part dans sa propre création. Tout en lui est programmé, et son instinct le guide. Tes parents t'ont fait petit enfant, mais c'est toi qui peu à peu te fais homme en intégrant toutes tes forces vives, en les développant, en les unifiant, en les orientant. Ainsi, le fleuve doit se nourrir de sa source et de ses affluents. Son cours très vite se tarit si son eau lui échappe. Plus tu seras riche et maître de ta vie, plus tu seras un homme et pourras dire « je pense, je parle, je fais » et libre encore « je viens vers toi, mon amour que j'aime ». Mais peu d'hommes, hélas, sont riches de leur vie. Pourquoi ? Parce que certains la gardent à nœud captive. Elle leur fait peur, quelquefois même ils la méprisent. Elle devient alors eau dormante qui pourrit, qui meurt au fond de puits abandonnés. D'autres la laissent échapper. Elle est plus forte qu'eux et coule entre leurs doigts sans qu'ils puissent la retenir. Elle se perd dans les sables et par elle, rien ne pourra pousser. D'autres enfin pensent que la vie à nœud accueillie doit être libérée. À leur corps, leur cœur, leur esprit, ils ouvrent toutes grandes les portes de chez eux. Ils disent « Vous êtes libres, allez, vivez, cueillez tous les fruits de plaisir comme vous le souhaitez, quand vous le désirez, comme vous le voulez. » Mais leur fleuve, sans lit, sans rive, encore moins sans barrage, sans canaux, sans écluse, devient vite fleuve asséché au lit de pierres sèches. Pauvres hommes qui pensaient être libres, mais qui sont dépendants. Ils courent après la vie, elle leur échappe de toutes parts. Ils s'épuisent et végètent, et quelquefois en meurent. Qui peut vivre sans vie, mon petit, et qui peut aimer s'il n'a rien à donner? Qui peut pour un autre à son orchestre faire chanter la chanson de l'amour si chaque instrument veut jouer à son gré sans vouloir de partition et moins encore de chef? Je te le dis, il faut être homme debout, riche et maître de soi pour pouvoir essayer d'aimer. Mais aimer, dis-je, ne se commande pas. C'est une force qui nous pousse et nous attire, et nous n'y pouvons rien. Tu te trompes, mon petit. L'amour n'est pas éblouissement de la beauté devant un visage soudain qui s'éclaire pour toi, car la véritable beauté est le reflet de l'âme, mais l'âme est au-delà que tu cherches en tremblant. L'amour n'est pas séduction d'une intelligence vive et déliée qui coule dans des mots, des idées pour te plaire, car l'intelligence peut briller de mille feux, sans être authentiquement diamant, caché aux profondeurs de l'aimer. L'amour n'est pas l'émotion devant un cœur qui bat pour toi, plus qu'il ne bat pour d'autres. Et cet émerveillement d'être choisi, élu sans raison à tes yeux qui valent cette folie, car un cœur peut un jour s'émouvoir pour un autre, et te laisser saignant, pleurant sans que meure ton amour. L'amour n'est pas envie de capter, de saisir l'objet de ton désir, qu'il soit cœur, corps, esprit ou tous trois à la fois, car l'autre n'est pas objet. Si tu prends pour toi, tu manges et tu détruis, c'est toi que tu aimes en croyant aimer l'autre. Éblouissement et séduction, fins et frissons, émotions et jaillissements de désir, tout cela est beau et nécessaire en l'homme, en la femme. Mais seulement pour aider à aimer, qui accepte d'aimer? C'est la porte entrebâillée et les fenêtres grandes ouvertes. C'est le vent qui s'engouffre, c'est l'appel du large et le murmure de Dieu qui invite à sortir de ta maison fermée pour aller vers un autre que tu as choisi de combler de ta vie parce que tu l'aimes et que tu veux aimer. Car aimer, mon petit, c'est vouloir l'autre libre et non pas le séduire, et de ses liens le libérer s'il demeure prisonnier, afin que lui aussi puisse dire « je t'aime » sans y être poussé par ses désirs indomptés. Aimer, c'est entrer chez l'autre. S'il t'ouvre les portes de son jardin secret, bien au-delà de ses chemins de ronde et des fleurs et des fruits cueillis sur ses talus, là où émerveillé, tu pourras murmurer « c'est toi ». Mon chéri, et tu es mon unique. Aimer, c'est de toutes tes forces vouloir le bien de l'autre, avant même le tien, et tout faire pour que l'aimé grandisse et puis s'épanouisse, devenant chaque jour l'homme qu'il doit être, et non celui que tu veux modeler à l'image de tes rêves. Aimer, c'est donner ton corps et non prendre le sien, mais accueillir le sien quand il s'offre en partage. et c'est te recueillir, t'enrichir pour offrir à l'aimé plus que 1000 caresses et plus que folles étreintes, ta vie tout entière rassemblée dans les bras de ton je, J-E. Aimer, c'est offrir à l'autre, et même si celui-ci un moment se refuse, c'est donner sans compter ce que l'autre te donne, en payant le prix fort, sans jamais réclamer ta monnaie, et c'est suprême amour pardonné, quand l'aimé hélas se dérobe, en tentant de livrer à d'autres ce qu'il t'avait promis. Aimer, c'est dresser ta table et la garnir pour y asseoir ton hôte, mais sans jamais te croire suffisant pour te passer de lui. Car privé de la nourriture que lui-même t'apporte, à ton repas de fête tu n'offriras que pain sec de pauvre et non menu de roi. Aimer, c'est croire en l'autre et lui faire confiance, croire en ses forces cachées, en la vie qu'il habite, et quelles que soient les pierres à dégager pour aplanir la route, c'est décider, un homme raisonnable, de partir courageux sur les chemins du temps, non pour 100 ans, pour 1000, ni même pour 10 000, mais pour un pèlerinage qui ne finira pas, car c'est un pèlerinage qui durera toujours. Aimer, je dois le dire, pour purifier tes rêves, c'est accepter de souffrir, de mourir à soi pour vivre et pour faire vivre. Car qui peut pour un autre s'oublier sans souffrir? Et qui peut renoncer à vivre pour lui-même sans que meure en lui quelque chose de lui? Aimer, enfin, c'est tout cela et beaucoup plus encore. Car aimer, c'est ouvrir à l'amour infini, c'est te laisser aimer. Et transparent à cet amour qui vient sans jamais te manquer, c'est, ô sublime aventure, permettre à Dieu d'aimer celui que toi, librement, tu décides d'aimer. Si c'est cela, aimer, pensais-je, comment pourrais-je y parvenir? J'étais découragée. Et comme un débutant au pied de la montagne qui contemple et admire les sommets, se croyant incapable de les escalader, j'étais tentée de camper dans la vallée. Je n'avais pas encore compris, malgré ce que m'avait répété le sage, que ce qu'il m'enseignait de l'amour était un but à atteindre et non un point de départ, et que pour tenter d'y parvenir, il fallait lutter tout le temps d'une vie. Je voulais tout, tout de suite. Là était mon erreur. Il me faudrait accepter d'adopter le pas lent et régulier de l'authentique montagnard. Chapitre 21. Je réfléchissais. Je priais. C'est vrai. Aimer, c'était pour moi jusqu'alors sentir, ressentir. Et je mesurais la valeur de mes amours à l'intensité de mes émotions et la violence de mes désirs. Je croyais aimer davantage une fille quand, en moi, le feu qu'elle allumait y brûlait plus fort et plus longuement que les feux précédents. Ceci s'était éteint lentement, à bout de nourriture, ou brusquement, comme si un autre plus loin, subitement allumé, avait mystérieusement ravi toutes leurs flammes. Je ne m'occupais plus des cendres quand elles fumaient encore, arrosées par quelques larmes de filles abandonnées. Je m'étonnais seulement que ces filles puissent pleurer tandis que je me réchauffais déjà près de notre foyer. Une fois cependant, je m'en souviens encore, c'est moi qui versais quelques larmes sous un sourire humide. J'étais blessée et j'accusais mon amour de ne pas avoir su m'aimer. Elle devait m'aimer, pensais-je, puisque moi je l'aimais. De ces expériences, certaines pour m'amuser et d'autres que je tentais de croire ou d'espérer sérieuses, je concluais qu'il était impossible aux amours de durer et donc il était fou de vouloir s'engager, puisque c'était la loi du feu que de se consumer. Et pourtant, j'attendais, espérant tout de même que peut-être un jour, ô mystérieux miracle, un amour se présenterait qui serait différent. J'avais rencontré quelques vieillards qui, tremblants et souriants, s'aimaient encore tout au bout de leurs ans. Aimer toujours n'était donc pas impossible. J'attendais, sans savoir, sans comprendre, sans rien faire d'autre que d'essayer encore. Aujourd'hui, le problème était différent. Je réalisais avec stupeur que lorsque je croyais aimer, c'était moi en fait, et moi seule que j'aimais. Cette bouleversante révélation m'humiliait et me faisait trembler. J'étais engagée sur une mauvaise route. Si je voulais aimer authentiquement, il me fallait accepter de changer de chemin. C'était une véritable conversion qui m'était demandée. Je m'aimais. Ce n'était certes pas mal. Le sage me l'avait fait comprendre. Mais je m'aimais au point de ne pouvoir aimer les autres, car d'eux, je me servais pour m'offrir les petits bonheurs qu'avidement je recherchais. J'aimais les filles comme j'aimais les cigarettes que je désirais, prenais, consommais en partie, puis rejetais quand, enfumées, je les avais réduites. J'avais envie qu'on m'aime. À mes amis d'un moment, sans trop y croire, je disais « je t'aime » pour m'entendre répondre « je t'aime moi aussi ». Et s'il y avait un peu d'amour vrai dans ces réponses maladroites, je le saisissais pour moi, car j'aimais être aimée. J'étais seule et je cherchais une présence pour briser ma solitude. Je désirais parler et je cherchais quelqu'un qui patiemment m'écoute. Et quand je n'avais plus rien à dire à mes amis, j'aspirais au bruit de leurs mots pour combler mes silences. Mon corps avait besoin de tendresse, de plaisir, et je dressais des plans pour capturer un corps dont les caresses et les baisers puissent un moment me rassasier. Et si un corps s'offrait parce que lui aussi avait faim, je me réjouissais de pouvoir en user sans combattre, et je me repaissais de ce repas gratuitement servi. Bref, je le répète, je m'aimais plus que tout. Et l'histoire de mes conquêtes avantageusement racontées n'était que celle de mes ruses pour obtenir ce que je désirais. Certes, quelquefois, je l'ai dit, ma partenaire était consentante. Elle me désirait quand je la désirais. Nous tentions alors de nous piller l'un l'autre. C'était deux égoïsmes qui pour quelque temps correspondaient et se faisaient complices. Et nous appelions cela « amour » en le croyant parfois. Ainsi, je méditais longuement, en m'étonnant encore que toutes ces erreurs aujourd'hui m'apparaissaient clairement. Comment avais-je pu à ce point me fourvoyer? Je comprenais maintenant que mes désirs étaient beaux et sains quand de mon corps et mon cœur ils s'évadaient tout neufs. Je n'avais pas à en rougir, m'avait dit le sage. Mais ils étaient sauvages et livrés à eux-mêmes. Comme chevaux indomptés, ils couraient follement dans les prés de ma vie. Quelquefois, je tentais de les rattraper, mais très vite, je m'épuisais. Ce sont eux qui m'entraînaient. J'étais à leur merci. Il fallait les capturer, les dresser, afin qu'ils deviennent, pour moi, montures robustes qui me conduisent là où je décidais d'aller. J'avais parlé très longuement. Et le sage, ce jour-là, m'approuva pleinement. Son visage était joyeux comme celui du paysan qui observe paisible la moisson mûrissante. « Tu as raison, me dit-il, l'homme est esclave si ses désirs le dominent. Mais si, les accueillant peu à peu, il en devient le maître, alors il peut choisir et décider librement. L'homme ne naît pas libre, il conquiert sa liberté. Et comment pourrait-il dire « je t'aime » s'il était forcé d'aimer ? « Je me battrai, dis-je, pour me libérer, et de moi devenir maître. » « Tu ne seras pas encore au bout de tes peines, mon petit, car aimer n'est pas en l'homme la possibilité de choisir ce qu'il veut prendre, mais la grave décision de donner ce qu'il veut donner à qui il veut donner. Il faut donc quotidiennement lutter pour transformer ton désir de prendre en la volonté de donner et parallèlement d'accueillir ce que l'autre décide de t'offrir. » Une fois encore, j'hésitais à comprendre. « Où est l'amour, dis-je, s'il faut faire ainsi tant d'efforts pour aimer ? » ?»« Ce sont ces efforts qui font l'amour vrai. » »« Mais il faut alors s'oublier, se nier totalement. » « Non, au contraire, je te l'ai dit, il faut accueillir toute ta vie, l'unifier, l'enrichir et l'épanouir au maximum pour pouvoir la donner. Et la donner n'est pas la perdre, mais la trouver. » Comme le grain qui, généreux, s'offre à la terre et se retrouve épi. La jeune fille que tu rencontreras sera ton champ et tu seras le sien. Et votre moisson sera ce que seront votre semence et la fertilité de votre terre. C'est beau, murmurai-je rêveur, mais qui peut aimer ainsi comme on devrait aimer ? Personne. Dieu seul aime parfaitement, mon petit, car il est tout don et tout accueil. Et son don est infini, comme infini son accueil. C'est pour cela qu'il n'est pas seulement celui qui aime plus que tout, mais qu'il est l'amour. Mais nous ne sommes pas Dieu seulement, image de Dieu. Et nous devons de nous, peu à peu, dégager cette image. Ainsi, le sculpteur, de la pierre brute, fait surgir la statue qui l'habite et l'attendait pour naître. Ô grande, ô merveilleuse et difficile aventure de l'amour, unique vocation de l'homme, hors de laquelle, pour lui, il ne peut être de bonheur et de repos éternel, puisque pour l'accomplir, il est depuis toujours pensé en la tendresse de Dieu. Puisse ton souffle d'amour, ô Père, qui sans cesse me fait, comme la mère en son ventre de sa vie fait l'enfant, m'aider à être un peu plus toi, en étant moi, chaque jour davantage, tout entier tourné vers les autres, pour leur offrir ma vie en recevant la leur. « Ami, dis-je, c'est donc en aimant authentiquement les autres que je deviendrai moi-même ? » ?»« Oui, mon petit, c'est aussi en aidant les autres à aimer, car tu es membre d'un grand corps qui grandit avec toi. C'est pour cela que je t'ai dit dès notre première rencontre, « Engage-toi au service de tes frères. » L'aurais-tu déjà oublié ? En cette fin d'épisode, le jeune a encore appris quelques nouveautés sur l'amour, mais essayons plutôt de résumer les fausses idées qu'il se faisait avant d'avoir rencontré le sage. Il est dit « Je réalisais avec stupeur que lorsque je croyais aimer, c'était moi en fait et moi seul que j'aimais. » Cette bouleversante révélation m'humiliait et me faisait trembler. J'étais engagée sur une mauvaise route. J'aimais les filles comme j'aime les cigarettes que je désirais et prenais, consommais en partie, puis jetais quand en fumée je les avais terminées. Et le sage termine la conversation dans la dernière phrase sera « C'est beau ». Murmurai-je rêveur, mais qui peut aimer ainsi comme on devrait aimer ? Personne, répond le sage. Et aussitôt, il encourage le jeune homme avec « Dieu seul aime parfaitement mon petit, car il est tout don et tout accueil. C'est pour cela qu'il n'est pas seulement celui qui aime plus que tout, mais qu'il est l'amour. Mais nous ne sommes pas Dieu, seulement image de Dieu. Et nous devons, peu à peu, dégager cette image, comme le sculpteur de la pierre brute fait surgir la statue. » Notre prochaine lecture nous parlera davantage de ces choses-là. N'oubliez pas l'émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et Dia Plus, ou le podcast sur notre site. Pensez aussi qu'il y a la nouvelle, la brève de « Je lis pour vous ». C'est le samedi matin, une émission où nous détaillons des expressions et des dictons. Pour vous en préciser le sens, à bientôt chers auditeurs.